En séance. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
Le lundi 20 février 2006, l'Académie des sciences morales et politiques poursuivait, comme chaque lundi, et sous la présidence de M. André Damien, sa série annuelle consacrée à la justice. Ce lundi 20 février, c'est M. Jean-Amédée Latou qui a lu sa communication intitulée « Application de la loi et garantie des libertés ». Pour un parquet hiérarchisé dans la magistrature. Monsieur Jean-Amédée Latou est procureur général de la Cour d'appel de Versailles depuis 2004. Il avait été auparavant procureur général à Douai, à Rion, procureur de la République à Lyon, à Strasbourg, à Mâcon et à Belfort. Monsieur Jean-Amédée Latou est par ailleurs membre du conseil d'administration de l'École nationale supérieure de police de Saint-Cyr au Mont-d'Or dans le Rhône. Il a participé à plusieurs missions d'expertise pour le Conseil de l'Europe, principalement en Azerbaïdjan, en Arménie et à Bucarest. Il a signé plusieurs articles dans des revues spécialisées consacrées au thème de la justice, notamment sur les rapports entre les relations du ministère public avec les juges. Nous le rejoignons tout de suite dans la salle des séances.
Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie, permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma profonde gratitude à la prestigieuse Académie des sciences morales et politiques pour cette invitation qui m'honore beaucoup. Cessons que sur la bienveillante suggestion du bâtonnier Damien que je prends la parole devant vous avec une certaine appréhension. En effet, l'article 298 de la Constitution de l'an 3, toujours en vigueur en ce qui concerne l'Institut, proclame qu'il y a pour toute la République un Institut national chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les arts et les sciences. J'ai donc accepté cette invitation avec beaucoup de modestie, car je ne suis ni explorateur, ni artiste, ni homme de science. Je ne peux non plus ignorer les très illustres magistrats, membres de votre Académie, qui, au XIXe siècle, ont servi à Versailles. Je veux parler de Beaumont, de Tocqueville et de Béranger, qui ont beaucoup œuvré pour les progrès de la politique criminelle de leur temps. Mais la bienveillance du bâtonnier Damien m'a guidé, il m'a décrit l'importance de votre réflexion, de vos échanges, de votre influence sur les orientations futures de la société, sur ses valeurs et sur sa culture. À la suite donc de vos illustres prédécesseurs, messieurs les académiciens, vous apportez, je cite, « votre pierre à la construction de cet édifice qui est le droit, instrument de paix entre les hommes ». Je m'efforcerai donc d'apporter ce modeste témoignage et de vous faire partager quelques réflexions personnelles sur le parquet. Réfléchir sur le rôle des procureurs, leur place dans l'organisation judiciaire, l'avenir du ministère public est un thème d'actualité, comme vous venez de l'indiquer, mais un sujet difficile. Nos concitoyens, en effet, méconnaissent très souvent les responsabilités et l'organisation du parquet, et je me souviens encore d'un sondage de 1995 qui révélait que 90% des Français étaient favorables à l'indépendance des procureurs, mais le même sondage ajoutait que 80% des Français ne faisaient pas la différence entre un avocat, un juge, un magistrat du ministère public. Voilà, alors cette réflexion sur les procureurs s'inscrit dans une époque qui entretient, il faut bien le dire, une culture du soupçon. Les institutions, nos institutions, la justice, connaissent une grave crise de confiance dans l'opinion. Certains, et vous l'avez dit, évoquent les expériences étrangères, le modèle anglo-saxon de common law, pour proposer une réforme radicale de notre système. Je voudrais, pour éclairer le débat sur la place, le rôle et l'avenir du ministère public, des magistrats du parquet, des procureurs et de leurs substituts, développer successivement deux thèmes. Tout d'abord, pour mieux comprendre la situation actuelle, rappeler que le ministère public est un acteur essentiel de la vie judiciaire. Et ensuite, dans une deuxième partie, nous interroger sur le ministère public de demain face aux interrogations d'aujourd'hui. Première partie donc, le ministère public, acteur essentiel de la vie judiciaire. Magistrats du ministère public forment avec leurs collègues du siège, les juges, le corps judiciaire. Dans cette organisation, les parquetiers, successeurs des gens du roi, les avocats et procureurs qui représentaient dans l'ancienne France les intérêts généraux du roi, les procureurs généraux, les avocats généraux, représentaient les intérêts généraux du roi, devenus ensuite ceux de la République, sont des magistrats à part entière. Ils ont pour mission de défendre les intérêts de la société dans le respect des libertés individuelles, comme l'a rappelé à plusieurs reprises le Conseil constitutionnel en 1993 et 1995. Ces magistrats du ministère public, ces parquetiers, veillent à la bonne application de la loi, à la protection de l'intérêt général devant les juridictions. Ils agissent, ils requièrent, ils concluent, non pas au nom de l'État ou du gouvernement, mais au nom de la nation et de la République souveraine. Les magistrats du parquet ne sont pas une partie comme les autres. Ils ne représentent pas des intérêts particuliers. Leur légitimité est fondée sur une délégation de souveraineté. Ils requièrent, vous l'avez évoqué tout à l'heure, librement, en âme et conscience, au nom du peuple français, au nom de la loi. L'organisation hiérarchique du parquet et son rattachement au ministre de la Justice, membre du gouvernement de la République, sont garants de cette cohérence et de l'expression, la bonne expression de l'intérêt général. Alors, l'histoire du parquet français, son statut, son avenir portent sur la difficile conciliation de l'indépendance des magistrats et de leur subordination au pouvoir de la nation. Je viens d'évoquer les missions. L'organisation de ce ministère public permet un travail en équipe. Il existe un parquet devant chaque tribunal de grande instance, devant chaque cour d'appel, devant la cour de cassation. Les procureurs, assistés de leurs collaborateurs, les substituts, également magistrats, travaillent sous la direction et le contrôle de leur chef hiérarchique et sous l'autorité du ministre de la Justice, comme le précise l'article 5 de l'ordonnance du 22 décembre 58. J'indique qu'il existe 1960 parquetiers, magistrats du parquet, sur un corps de 7500 magistrats. Ces parquetiers sont installés à l'intérieur des palais de justice, c'est ce qui fait là aussi notre différence avec beaucoup de pays étrangers, et un certain nombre de fonctionnaires, de greffiers, travaillent à leur côté. Cette structure hiérarchique, très discutée à la fin des années 90, a été réaffirmée avec force par la loi du 9 mars 2004, confiant aux gardes des Sceaux la conduite de la politique d'action publique et la possibilité de donner des instructions générales ou individuelles positives. Le procureur général veille à l'application de la loi pénale sur l'étendue de son ressort, au bon fonctionnement des parquets. Il anime et coordonne l'action des procureurs de la République. Il a une responsabilité d'échange d'informations générales et particulières entre les parquets et le garde des Sceaux. En ce qui me concerne, j'ai dans mon ressort les parquets de Chartres que vous avez évoqués, mais les parquets de Nanterre, les parquets de Pontoise et le parquet de Versailles. Alors, les responsabilités confiées aux procureurs de la République et à leurs collaborateurs sont immenses. Je n'évoquerai pas, faute de temps, les attributions des parquets devant les juridictions civiles ou commerciales, qui se sont considérablement développées ces dernières années, leurs compétences pour agir en matière de mineurs en danger, de majeurs à protéger, on disait autrefois les incapables majeurs, les pouvoirs qui leur sont confiés en ce qui concerne les entreprises en difficulté, les officiers publics et ministériels. Je me limiterai à la matière pénale où le parquet joue un rôle essentiel. Le parquet, les magistrats du ministère public ont tout d'abord des responsabilités juridictionnelles et ils ont également des responsabilités de politique criminelle. Magistrats du ministère public ayant des responsabilités juridictionnelles, les parquets reçoivent tous les jours les plaintes, les dénonciations. Ils sont avisés chaque jour et chaque nuit, par écrit, par téléphone, par des visites, par l'ensemble des services de police, de gendarmerie, des crimes et délits qui sont constatés. Informés, comme je vous le disais, en permanence, ces magistrats dirigent l'exercice de la police judiciaire en donnant des instructions d'enquête, en désignant le service de police ou de gendarmerie le plus approprié, en dessaisissant un service pour saisir un autre, en requérant contrôle d'identité, examen technique en matière de médecine légale, en matière mécanique, en matière de téléphonie, garde à vue, perquisition, saisie, audition. Ainsi, et c'est très important de le souligner dans le système français, les magistrats du parquet décident de l'opportunité des poursuites à l'issue de l'enquête initiale. Ainsi, les procureurs ont un choix important à opérer, affaire par affaire. Les parquets, ainsi, peuvent décider de classer sans suite lorsque les auteurs n'ont pas été identifiés ou lorsque les poursuites ne sont pas opportunes. Ils peuvent également décider une mesure alternative aux poursuites. Plutôt que de renvoyer la personne contre laquelle ils ont des charges graves, précises et concordantes devant une juridiction, ils décident un rappel à la loi qu'ils font effectuer par un de leurs délégués, un classement sous condition, une médiation-réparation ou une injonction thérapeutique, par exemple, pour des toxicomanes. S'ils estiment, trois conditions, que la victime est désintéressée, que l'auteur a de fortes chances de ne pas réitérer et que le trouble à l'ordre public a cessé. Alors, les magistrats du parquet vont donc prendre une décision et ils vont, s'ils estiment devoir poursuivre devant une juridiction, saisir les juges, suivant plusieurs formes de procédure. Convocation devant le tribunal à plusieurs semaines, à plusieurs jours, comparution immédiate, les individus sont déférés à l'issue de leur garde à vue devant le tribunal correctionnel, proposition de composition pénale ou de comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité, une procédure nouvelle qui a fait un certain bruit, mais qui maintenant est rentrée dans les mœurs. Moi, dans mon ressort, pour le premier trimestre, on a déjà environ 500 procédures de CRPC qui se sont mises en route, et Dieu sait si pourtant certains juges étaient très prudents par rapport à cette nouvelle procédure. Et enfin, ouverture de l'instruction, qui, comme on l'a dit, ne représente que moins de 10% des affaires qui sont traitées par les juridictions pénales. Alors, comme vous le savez, aux audiences, les procureurs et leurs substituts ont la responsabilité de requérir l'application de la loi, d'exposer les charges de l'accusation, de rapporter la preuve et de requérir des peines ou bien, en amont, bien sûr, les détentions provisoires. Les procureurs disposent d'un droit d'appel. Et enfin, ils ont le devoir, dans le cadre de cette procédure pénale dessinée à très, très, très grands traits, de veiller à l'exécution effective de ces peines et de, en cas de besoin, et de plus en plus aujourd'hui, de concourir à l'entraide répressive internationale. Alors, je viens d'évoquer le rôle de ces procureurs à l'intérieur de la procédure pénale. Je dirais qu'ils ont également, à côté de l'activité juridictionnelle, un deuxième rôle en matière pénale qui touche des responsabilités de politique criminelle. En effet, les parquets ont le devoir d'apprécier la réaction judiciaire la plus opportune au regard des exigences de sécurité que souhaitent nos concitoyens et les pouvoirs publics. Ainsi, au-delà de sa décision dans le procès pénal, dans le cadre de l'engagement des poursuites, les magistrats du ministère public doivent également prendre en compte, et c'est quelque chose de fondamental, l'intérêt des victimes. C'est ainsi que les collègues des parquets sont trop impliqués concrètement sur les modalités d'accueil dans les services d'enquête, de police et de gendarmerie, modalités d'accueil des victimes dans les palais de justice, un travail considérable sur le plan administratif, sur les avis à donner, les suites données à des plaintes, et puis aussi un soutien significatif aux associations d'aide aux victimes qui ont été mises en place depuis bientôt une vingtaine d'années et pour lesquelles, du reste, les chefs de cour attribuent des subventions à côté des moyens de financement qui leur sont attribués par les frais de justice ou par un certain nombre de collectivités territoriales. L'intérêt des victimes, la prévention, et j'ajoute que c'est un des rôles essentiels pour les magistrats du parquet d'être attentifs aux meilleures suites à donner aux affaires de mineurs victimes ou mineurs auteurs de délinquance. Prévention, c'est l'ensemble des thèmes qui touchent la circulation routière, la lutte contre la toxicomanie, l'alcoolémie, la lutte contre la récidive à propos des sursis d'épreuve, les travaux d'intérêt général comme alternative aux peines de prison ou bien même les sorties de prison qui constituent là également un domaine d'action et d'engagement pour les procureurs généraux et les procureurs de la République. Question de l'intérêt des victimes, de la prévention, de l'ordre public en relation permanente avec les autorités administratives. Je veux parler des dialogues que les préfets, les procureurs généraux entretiennent, que les procureurs de la République et les procureurs généraux entretiennent avec les préfets avec les services de police et de gendarmerie, les services de l'équipement, la direction de travail et de l'emploi, de la répression des fraudes, de l'environnement et des collectivités territoriales, puisque depuis un certain nombre d'années, depuis une quinzaine d'années, les magistrats sont invités à travailler de façon beaucoup plus étroite avec les départements dans le cadre de la protection de l'enfance, de l'assistance éducative, mais également avec les communes, les municipalités sur les questions de sécurité. Les parquets, les procureurs de la République ont ces lignes de directrices sur lesquelles ils doivent réfléchir pour apprécier la meilleure solution possible, comment leur action sur les affaires individuelles se coordonne avec des engagements plus généraux des pouvoirs publics. J'ajouterai enfin, et c'est quand même très important, que les procureurs de la République et les procureurs généraux doivent également tenir compte des moyens humains dont ils disposent dans les juridictions, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, on disait autrefois l'éducation surveillée, les gens des services de probation, le nombre de magistrats et de fonctionnaires, surtout que la récente loi organique de finances, la LOLF, surnommée de façon amicale par un certain nombre de fonctionnaires, comme une loi compliquée, fixe évidemment des objectifs maintenant aux juridictions ou aux parquets, des performances, fixe des enveloppes budgétaires, des plafonds d'emploi sur lesquels l'action des uns et des autres doit se mettre en perspective, l'adéquation entre les moyens, les objectifs et les indicateurs de performance en termes de délai, en termes d'évacuation des affaires. Alors, j'ai bien conscience que ce modèle français est critiqué à la suite d'échecs graves dans plusieurs procédures, d'échecs extrêmement graves, mais également à la lumière de certaines expériences étrangères qu'on a citées, qui ont été évoquées tout à l'heure, ou même de l'envoi d'un hélicoptère dans l'Himalaya, et beaucoup militent pour une réforme fondamentale du ministère public. Beaucoup mettent en cause l'organisation hiérarchique de ce parquet, sa place centrale dans la procédure et même le statut de magistrat de ses membres. Alors, quel ministère public pour demain? Et ce sera le deuxième point de ce propos. Le débat public porte depuis plusieurs années sur la qualité de magistrat des membres du ministère public dans la mesure où ils sont hiérarchisés jusqu'à un membre du gouvernement. Et certains s'interrogent, en comparant notre système à ceux de l'étranger, certains s'interrogent également à la bonne organisation de l'État, notamment en matière d'exercice de la police judiciaire, par qui la police doit-elle être dirigée, quel est le rôle, qui doit tenir ce rôle de direction et des enquêtes. Alors certains considèrent que le parquet est condamné par l'évolution internationale, et c'était très expressément ce qu'écrivait en pleine page le procureur général Bourgelin dans le Figaro la semaine dernière. Alors je voudrais poser deux questions. Notre ministère public peut-il rester une exception française, tout en disant ensuite qu'il me paraît nécessaire de concilier son appartenance à la magistrature et l'organisation hiérarchique? Alors, notre ministère public français peut-il rester une exception française? Certes, le modèle anglo-saxon des pays de common law est devenu majoritaire dans le monde. Dans ce système, le procureur que nous connaissons, dans ces systèmes de common law, dans ce système américain, le procureur que nous connaissons n'existe pas. La police dirige les enquêtes, c'est ce que l'on voit à la télévision tous les soirs. La police dirige les enquêtes. Les avocats de la défense recherchent les preuves aux frais de leurs clients. Et l'accusation est tenue à l'audience par des avocats. Mais le système américain n'est-il pas sans reproche? Il est admis, je crois largement, qu'il est cher, inégalitaire pour les parties, et que les victimes n'y occupent pas une place centrale. Il n'exclut pas non plus les erreurs judiciaires, et j'ai gardé dans mes archives personnelles un article en pleine page qui avait été publié dans un grand quotidien du matin, « États-Unis, l'horreur judiciaire », une machine à erreur judiciaire. Aux États-Unis, 68% des condamnations à mort prononcées entre 73 et 95 ont dû être révisées. Donc, je ne suis pas convaincu pour ma part que le système américain soit la panacée et soit la réponse à nos interrogations. Je note, à propos de pays de common law, qu'en Grande-Bretagne, on a récemment créé un Crown Prosecution Service pour contrôler les policiers du Home Office, notamment à la suite des multiples condamnations prononcées par la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. On parle de la référence à l'étranger. Je suis pour ma part attaché à un instrument international qui est une recommandation du Conseil de l'Europe adoptée le 6 novembre 2000 par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe de Strasbourg. Recommandation sur le rôle du ministère public dans le système de justice pénale. Et cet instrument international reconnaît aux États la possibilité d'organiser, je cite, un ministère public qui dépende du gouvernement ou se trouve subordonné à lui, à condition que cette organisation permette au ministère public d'agir de façon équitable, impartiale et objective pour favoriser l'équité, l'efficacité et la célérité de la justice pénale. Ainsi, je suis fortement convaincu que notre système français est compatible avec nos engagements internationaux et avec les standards européens, soucieux de garantir les droits de l'homme et d'accroître l'efficacité de la justice pénale. Alors, je sais que la mondialisation a certainement une influence considérable sur les évolutions nécessaires de nos institutions. La France a modifié la Constitution en juillet 1999, et j'évoque là le nouvel article 53.2 de la Constitution, pour ratifier la Convention portant statut de la Cour pénale internationale, chargée notamment de juger les crimes contre l'humanité. Cette organisation nouvelle a mis en place des solutions originales, compromis entre des traditions juridiques différentes. Le procureur de la Cour pénale internationale, qui siège à La Haye, élu pour 9 ans par les 89 États qui ont reconnu la Cour pénale internationale, a le pouvoir d'ouvrir des enquêtes, mais son instruction est supervisée, contrôlée par une chambre préliminaire qui garantit les droits de la défense, des victimes et les poursuites. La chambre préliminaire valide les classements ou les poursuites. Cette chambre préliminaire confirme les charges avant que ne s'ouvre éventuellement le procès devant la Cour de jugement. Alors l'expérience, l'histoire nous dira si ce système, que la France a largement inspiré, mais qui a été, je crois, porté d'abord par le Quai d'Orsay plutôt que par la place Vendôme, influencera notre législation interne. Des réformes sont attendues de tous. Le législateur décidera le moment venu le système le plus approprié à nos attentes de sécurité et de liberté. Mais il paraît souhaitable, et c'est fin de mon intervention, la deuxième partie, il me paraît souhaitable pour le ministère public de continuer à concilier son appartenance à la magistrature et l'organisation hiérarchique. Les membres du ministère public, en effet, ne sont pas de simples agents du pouvoir exécutif. Ils sont des magistrats. Et je suis convaincu, après bientôt 40 ans d'expérience professionnelle, que pour analyser les faits d'une enquête, pour diriger les services de police judiciaire, pour apprécier l'opportunité des poursuites individuelles, pour prononcer des réquisitions pertinentes et humaines, les procureurs doivent partager les mêmes valeurs, la même éthique, la même démarche intellectuelle que les juges, connaissances juridiques, humaines et techniques bien sûr, impartialité et refus d'un esprit partisan, objectivité, discernement, esprit critique comme les juges, culture du doute, rapidité de décision, loyauté, délicatesse, courtoisie, respect des individus et individualisation de leur réquisition, souci de veiller au respect de la loi et des libertés, mais aussi à l'efficacité de la justice. C'est bien pour cela que les procureurs ne s'expriment pas au nom d'intérêts particuliers, bien sûr totalement légitimes, mais que la loi leur reconnaît une totale liberté de parole pour exprimer ce qu'ils croient convenable au bien de la justice, dit le Code de procédure pénale. Ainsi, les magistrats du ministère public qui expriment l'intérêt général ne peuvent être isolés, ils doivent nécessairement travailler en équipe. Cette structure hiérarchique des parquets, procureurs généraux, ses avocats et substituts généraux, les procureurs de la République, leurs adjoints, leurs substituts, cette structure hiérarchique n'est pas, ne doit pas être une bureaucratie, elle est la condition de la cohérence de la direction des policiers et des pratiques de poursuite menées par les divers parquetiers dans les juridictions. Cette structure hiérarchique permet de garantir le principe d'égalité des citoyens devant les poursuites. Sans une structure hiérarchique, il y aurait place pour l'arbitraire des uns, les désaccords des autres. Par exemple, l'attitude à avoir face à la toxicomanie, face aux violences urbaines telles qu'elles se sont manifestées au mois de novembre dernier. Les confusions provoquées par des enquêtes parallèles menées par des procureurs indépendants dans toute la France ou les refus de coopérer des uns avec les autres doivent être absolument évités et une nécessaire coordination doit exister. Cette organisation hiérarchique justifie que les parquets rendent compte de tous les événements susceptibles de troubler l'ordre public, d'illustrer des difficultés d'application de la loi pénale, rendre compte des affaires qui peuvent connaître un retentissement médiatique important ou de poser les questions touchant le bon fonctionnement de l'institution. Alors, une telle organisation suppose évidemment un sens de l'écoute, un sens du travail en équipe, l'acceptation des différences, l'aptitude au dialogue pour atteindre l'objectivité et l'impartialité. Et je suis persuadé que les responsables hiérarchiques en sont les garants. Cette organisation hiérarchique, reconnue par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 mars 2004, ne peut être coupée des pouvoirs publics responsables devant la nation et ses représentants de la politique pénale. Car la politique pénale n'est pas seulement l'affaire des magistrats de l'ordre judiciaire, elle concerne également la prévention, l'éducation, la formation professionnelle, les soins. Elle implique nécessairement un engagement important des autorités administratives et des élus locaux. La politique pénale à laquelle les décisions judiciaires contribuent concerne aussi la pertinence des lois, les modalités de leur application, l'exécution des peines, l'éducation, la prison ou l'amende. La politique pénale touche, bien sûr, aussi l'entraide répressive internationale et les intérêts fondamentaux de la nation. À ce titre, il est légitime qu'un dialogue permanent existe entre le parquet, qui assure une interface avec les juges indépendants, et le ministre de la Justice. Certes, un renforcement de garanties statutaires reconnues aux procureurs, une transparence accrue des instructions individuelles ou générales, une certainement meilleure organisation des comptes rendus d'activité, du savoir rendre compte, doivent permettre un dialogue permanent, confiant et sans servilité. Je suis convaincu que les réformes à venir sont nécessaires, elles seront difficiles, mais elles prendront en compte la complexité de ces missions remplies pour le bien commun. Comme l'écrivait en avril 95, il y a 10 ans, dans la revue municipale de Versailles, ville dont il était alors le maire, Monsieur le bâtonnier Damien, je le cite, 1995. Ce doute de l'opinion, ces errements, sont le signe d'une crise latente que des réformes permettront, je le pense, de surmonter pour que les Français retrouvent cette confiance indispensable dans leur justice, reflet d'une confiance retrouvée en eux-mêmes. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre M. Jean-Amédée Latou, procureur général de la Cour d'appel de Versailles. Il s'exprimait en séance publique devant l'Académie des sciences morales et politiques le 20 février 2006. Sa communication était intitulée « Application de la loi et garantie des libertés pour un parquet hiérarchisé dans la magistrature ».